Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Simple homosexualité a le don de nous faire réagir dans un sens ou dans un autre, ou encore de provoquer en nous des sentiments divers. En réalité, nous désirons tous connaître davantage sur la série de réactions en chaîne que provoque la sexualité au plus profond de nos êtres, et qui souvent en arrive à prendre le dessus sur la raison elle-même. Malheureusement, on a tellement parlé, on a tellement fait de battements autour de la sexualité, et on l'a si souvent présenté sous un jour tellement faux, qu'elle a donné naissance à un véritable fléau, la pornographie, et tout ce qu'elle comporte de vicieux et de répréhensible. Nombre d'adultes et même de jeunes sont arrivés à ne plus vouloir en parler, car ils ne savent que trop où de telles conversations vont les mener. Ils imaginent, fait paradoxal en soi, qu'il serait vain d'aborder le sujet du point de vue religieux, car cela aboutirait nécessairement, pense-t-il, à faire connaissance avec une longue liste d'interdictions aussi formelles qu'hermétiques. De telles règles, souvent aveugles dans leur conception, ne sont d'ailleurs pas suivies. De nos jours, le nombre de personnes entrant en contact direct et suivi avec la Bible augmente sans cesse, et cette mentalité dépassée fait place à une ouverture vers une attitude plus détendue, moins culpabilisée. Cependant, disons d'emblée qu'il serait vain de croire que la Bible encourage l'idée selon laquelle l'activité sexuelle de l'individu ne doit subir aucune restriction. Elle n'enseigne nullement la liberté totale en ce domaine, loin de là. La conversation que nous entamons ensemble a pour simple but de vous entretenir sur ce que la Bible dit sur ce sujet afin de vous permettre par vous-même et en toute liberté de décider si ces concepts vous ouvrent des horizons plus conformes à ce que vous pensiez déjà. Une capacité à pouvoir même permet d'emblée de faire la distinction entre l'humain et l'animal. C'est la faculté qu'il a de pouvoir restreindre, contrôler ses appétits sexuels. Les biologistes considèrent qu'un être, quel qu'il soit, dont l'organisme est inexorablement soumis à une suite de réactions aussi inéluctables que des réactions chimiques, peut être situé très bas dans l'échelle biologique des êtres vivants. Plus un organisme a la possibilité d'affecter, de dominer, de commander son environnement, c'est-à-dire sans se laisser soumettre par lui, plus il est par contre à placer à un degré plus élevé sur cette même échelle. Celui qui répond à n'importe quel stimulant sexuel n'est en fait pas libre de ses sens. Il y est au contraire étroitement assujetti ou encore esclave de ce qui s'offre à lui. La vraie liberté consiste au contraire à pouvoir se contrôler, se restreindre dans des cas identiques. L'éthique sexuelle qu'enseignent les Écritures conduit chaque être humain vers une vie complète basée sur la liberté auquel il aspire par chaque fibre de son corps. Avant d'arriver à une parfaite compréhension du vrai message de la Bible, il est hélas très souvent nécessaire de se débarrasser littéralement de toutes les contraintes et des concepts erronés établis et imposés au cours des siècles au nom du christianisme. Bien des gens sont persuadés, en effet, que la sexualité est condamnable en vertu du plaisir mutuel qu'éprouvent les époux à se donner l'un à l'autre. L'histoire prouve combien les autorités religieuses ont soutenu cette thèse de codification absolument négative de l'amour physique. Dès le IIIe siècle, approximativement, le pouvoir religieux enseignait déjà que la suppression des impulsions sexuelles était bonne en elle-même et méritoire aux yeux de Dieu. Cela ne voulait pas nécessairement dire qu'il fallait rester célibataire toute sa vie et s'abstenir de toute relation sexuelle pour obtenir le salut, mais cela signifiait qu'une faveur spéciale de Dieu s'attachait à ceux qui étaient capables, par grâce divine, de réfréner ses désirs sexuels. En bref, que les êtres vierges recevraient une félicité autrement grande que les couples mariés. Cette conception, à la fois superficielle et contre-nature, trouve toujours une large audience auprès d'une certaine catégorie de personnes, et cela malgré le fait que la Bible n'en souffre pas le moindre mot. D'après cette règle, les hommes peuvent être divisés en deux catégories distinctes. L'une charnelle, l'autre spirituelle. La chair représente ses appétits, auxquels on ne peut donner un nom précis, et qui ont pour résultante l'emprisonnement de l'esprit dans le corps physique, dans le corps charnel. Cela ne comporte que le mal, et Et c'est pourquoi, chaque fois que faire se peut, l'homme qui tend vers le spirituel doit réprimer ses activités charnelles. La nourriture, au sens strict du terme, n'est autorisée qu'en vertu du fait qu'elle est essentielle à la vie. Par contre, toute activité sexuelle doit être bannie. Comme nous le voyons, il s'agit de vivre une vie essentiellement ascétique. Cela rappelle le pauvre curé d'Ars, qui chaque jour se fouettait les reins et le dos à sang pour épuiser son corps ainsi que ses sens. Ou les moines qui s'enfonçaient dans un quelconque désert vivaient au plus profond d'une caverne. Ou encore à ce que disait Erasme aux environs de 1500, lorsqu'il faisait dire à Jésus « Je n'ai donné qu'une loi aux hommes, c'est la seule que je reconnaisse, et c'est la seule dont ces gens-là ne me parlent point. » Ce n'est pas à des forques, à des oraisons, à des abstinences continuelles que j'ai promis autrefois le royaume de mon Père, mais à l'exercice de tous les devoirs de la charité. Je ne connais pas les gens qui connaissent si bien les mérites de leurs propres œuvres et qui veulent paraître plus saints que moi, qu'ils aillent chercher un autre paradis que le mien, qu'ils en demandent un à ceux dont ils ont suivi les vaines traditions préférablement à ma loi. Ces paroles sont dures et ne proviennent pas, bien sûr, de la bouche du Fils de Dieu. Elles font cependant réfléchir lorsque l'on considère que le vrai chrétien ne considère pas la création de Dieu comme mauvaise. C'est plutôt l'utilisation que l'homme en fait qui est souvent pernicieuse, et cela comprend évidemment son corps. On pourrait longuement épiloguer sur cette doctrine de l'abstinence sexuelle, mais le moyen de vous convaincre est le meilleur. C'est tout simplement d'aller voir dans la Bible, d'interroger le livre des livres et de juger par vous-même. Afin de déterminer d'emblée l'attitude de Dieu envers la sexualité, il paraît logique de commencer par examiner le récit de la création. Le problème fondamental de la question est même résolu par Dieu lorsqu'il dit tout au début de la Genèse « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parmi tous les êtres qu'il venait de créer, il allait de soi, aucun ne serait une compagne pour lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Cela montre bien que Dieu avait dès le début déterminé la liaison étroite que formerait l'homme et la femme. Le symbole de la côte tirée de l'homme pour en former une femme exemplifie d'une manière formelle que l'un est le complément de l'autre et que l'un est fait pour l'autre. La nature de cette sexualité naissante est en réalité ordonnée par Dieu. Le peuple élu d'Israël le comprend très bien. La preuve en est que dans l'Ancien Testament, on en parle sans gêne aucune, sans pudibonderie, comme d'une chose émanant de la nature même de l'homme. Rien ne nous y indique non plus que cet aspect de l'existence humaine n'ait jamais été considéré comme étant vil et ne devant pas faire partie d'une conversation courante, normale ou même encore protocolaire. La Bible, bien que fustigeant ces choses avec la dernière rigueur, parle ouvertement de l'adultère, du viol, de l'inceste, etc. Nombreux sont les passages des Écritures qui paraissent choquants, voire déplacés aux yeux des personnes non averties et particulièrement prudes. Le livre du Cantique des Cantiques en est l'exemple. Il s'agit pourtant tout simplement d'une série de poèmes d'amour. Le symbolisme qui y est utilisé paraît étrange au XXe siècle, car il était destiné à une société ancienne dont il était précisément issu. Le chapitre 7, au verset 6 à 9, en est l'exemple. Écoutez plutôt. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour au milieu des délices, ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle, comme celui des pommes. Nombreux sont les commentateurs de la Bible qui, au cours des siècles, se sont étonnés et ont été plus qu'intrigués par le Cantique des Cantiques. Et la raison en est qu'ils n'avaient tout simplement pas compris le rôle que la sexualité jouait dans la création de Dieu. Certains sont allés même jusqu'à douter de la place qu'il occupait dans les Écritures. Il représente en réalité un véritable monument dédié à l'amour que Dieu avait dès le début désiré que l'homme porte à son épouse. Jésus, tout en ne développant pas ce sujet en profondeur, attribua également la vie sexuelle sa véritable dimension et la place, une fois de plus, tout naturellement, dans le contexte normal des autres domaines de la vie du chrétien. Il enseigne et insiste même à plusieurs reprises sur le fait que les relations sexuelles ne relèvent pas de l'amour libre, mais d'une vie conjugale équilibrée. L'homme et la femme peuvent et doivent trouver une satisfaction profonde dans un amour mutuel sans cesse grandissant. C'est uniquement dans le cadre d'une telle union que la vie sexuelle des époux prend sa peine et sa mesure. C'est ainsi que Dieu l'a conçue. Jésus l'exprime très clairement lorsqu'il dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » On taxe souvent l'apôtre Paul de misogynie et lui attribue des sentiments antisexuels. Rien n'est plus faux. Paul, après avoir fondé une assemblée à Corinthe, ville bien connue pour le relâchement des mœurs de ses habitants, se trouve confronté avec ces problèmes et se voit naturellement forcé de réagir contre une certaine morale qui pousse ses racines empoisonnées jusque dans l'Église du Seigneur. Il insiste à maintes reprises sur la nécessité primordiale qu'a le chrétien de demeurer pur. Par contre, dans cette même ville de Corinthe, une certaine faction s'oppose vigoureusement à toute activité sexuelle. Et Paul reconnaît que dans certaines circonstances, comme par exemple les persécutions, il vaut mieux s'abstenir de se marier. Il s'agit cependant là d'une mesure plutôt temporaire. À une autre occasion, Paul insiste que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ne vous privez point l'un de l'autre, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Que voilà de la sexualité bien comprise, sexualité d'avant-garde même pour avoir été écrite il y aura bientôt 2000 ans. Une lecture attentive de la première épître aux Corinthiens démontre que Paul éprouve pour la sexualité ce respect saint que toute la Bible partage avec lui.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui l'a présenté. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre, et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition, sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse CEDEX, et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086.